Je vais passer aux vêtements du prophète, où là c'est plus marrant, parce que on va commencer par le vêtement en poil de chameau. Alors je reviens donc sur Matthieu 3, le premier passage que je vous ai mis. Le vêtement de poil de chameau, ben, en fait c'est comme Élie, c'est le vêtement par excellence du prophète, le vêtement de poil de chameau. Donc ça signifie Jean-Baptiste est le nouvel Élie, c'est-à-dire que Élie il a dit à Élisée qu'il consentait à lui donner une double part de son esprit, parce qu'à chaque génération, les grâces qu'on a attirées sur notre famille et sur les gens qui dépendent de nous augmentent grâce à nous, enfin grâce à la grâce divine, mais à chaque génération, il y a de plus en plus de grâces qui s'accumulent. Et Jean-Baptiste, du coup, il est comme Élisée, mais sauf qu'au lieu d'avoir le double de l'esprit, il a puissance je sais pas combien, parce que c'est tous les prophètes qui l'ont précédé, qui lui ont donné une couche de grâce, et il a le manteau de poil de chameau. Alors, le vêtement de peau de bête, ou fait avec des éléments d'une bête, c'est le symbole de la grâce donnée par Dieu. La grâce qui vient arracher l'homme au péché, qui vient revêtir la nudité des hommes pécheurs. Parce que dans la Genèse, l'homme et la femme qui ont péché se retrouvent nus, c'est-à-dire que leur corps ne peut plus être regardé comme cela. Leur corps n'a plus la splendeur de gloire qu'ils avaient auparavant, la nuée qui était dans le temple. Et du coup, le Seigneur leur dit, bah, enlevez vos pagnes tout moches là qui sont un peu des bricolages humains, et je vais vous donner un vêtement particulier. C'est ma grâce, en fait. C'est de vous obliger à passer par un abandon à la providence divine, et en permanence, je vais vous habiller. C'est-à-dire, je vais compenser vos manques. C'est ça, la grâce. Et de manière imminente, avec les sacrements, c'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que c'est grâce au baptême, grâce à l'Eucharistie, grâce à des confessions régulières, qu'on continue à se vêtir, finalement, pour pouvoir ne pas être nu et être revêtu des vêtements du Christ. Alors, le chameau, il y a un lien avec la troisième lettre de l'alphabet hébreu, c'est le guimel, parce que guimel, ça veut dire chameau. Chameau, et le chameau, cette lettre-là, et le chameau aussi, ça signifie la force, la puissance. Donc Jean-Baptiste est recouvert de la force de Dieu, de la puissance de Dieu, par son manteau en poil de chameau. C'est ça le symbole. On voit dans la Genèse au chapitre 27 que ce manteau est nécessaire pour obtenir la bénédiction. Parce que vous avez Ésaü et Jacob, les deux fils d'Isaac, et normalement c'était Ésaü qui devait recevoir tout l'héritage et puis devenir le nouveau patriarche quand son père serait mort. Enfin, juste avant sa mort, il devait le bénir. Sauf que lui, il ne pensait pas du tout à sa famille. C'était quelqu'un qui tuait, qui chassait, qui mentait. C'était quelqu'un qui n'était pas du tout dans l'alliance. Et pour pouvoir donner la bénédiction, il fallait être poilu. C'est-à-dire que le bibliste raconte que la mère, donc c'est Rebecca, qui a recouvert Jacob d'une fourrure pour que le papa qui commençait à être aveugle, en touchant la main de son fils, ait l'impression que c'était bien son fils aîné et que, de fait, il lui donne la bénédiction. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que ce manteau? Alors certains disent c'est le frère aîné, il représente notre instinct animal, et le frère cadet, il représente notre côté spirituel, en fait. Voilà, que le Seigneur s'attache d'abord au côté spirituel. Alors je trouve, c'est intéressant. Le problème, c'est que il y a quand même besoin de ce manteau particulier, en fait. Et à mon avis, c'est l'appartenance au peuple de Dieu. C'est ça le manteau, c'est-à-dire d'être au sein du peuple élu. C'est ça que ça veut dire, le manteau, je pense. Et du coup, le fils cadet, au départ, n'était pas dans la lignée principale qui recevait à plein tube les grâces divines. Voilà. Il recevait des grâces divines comme tout homme, mais il y en a qui reçoivent plus de grâces. C'est ceux qui sont dans le peuple de Dieu, c'est-à-dire à l'époque c'était le peuple d'Israël. Et dans le peuple d'Israël, c'est ce qui représente Sion, c'est-à-dire le cœur du sanctuaire. C'est la famille principale qui était la lignée qui devait conduire au Christ. Voilà. Et qui s'est ouverte vers les chrétiens. Voilà, aujourd'hui, un chrétien qui vit des sacrements reçoit une grâce d'une puissance phénoménale, alors qu'une personne qui ne va pas à la messe ou qui ne croit pas en Dieu va recevoir aussi des grâces, mais d'une manière beaucoup moins importante, parce que c'est pas Dieu qui elle reçoit, c'est pas, donc elle ne va pas avoir ce manteau du baptême, en fait, qui va l'associer au corps de l'Église, voyez, à la famille de Dieu. Et ce manteau, il est vraiment nécessaire pour que Dieu ait l'impression de se regarder lui-même en nous regardant, comme si on était un membre parfait de son corps parfait. Par rapport aux vêtements, on voit que dans la Bible, il faut toujours se dévêtir pour ouvrir son intimité à la repentance. C'est-à-dire enlever ses habits qui ne sont pas des bons habits, comme Adam et Ève qui s'étaient cousus des pagnes, qui étaient un petit peu des choses mal fagotées. Par exemple, les lois humaines, c'est des pagnes faits par l'homme. Voilà. C'est-à-dire que l'homme essaie tant bien que mal de créer des lois pour que les sociétés se stabilisent, et c'est bon en tant que tel. Mais il y a un côté imparfait dans les lois, parce que on peut toujours, si on est mal intentionné, interpréter de travers la loi. Voilà. Et le Seigneur nous dit, enlève tes lois, enlève tes préjugés, enlève ton fonctionnement, et moi je vais purifier ton intelligence, tu vas recevoir de moi la grâce. Et ensuite, tu auras ce recul nécessaire sur la loi qui fera que tu l'interpréteras de la bonne manière et que soit tu pourras te passer de la loi, soit tu vivras avec la loi sans être esclave de la loi. Voilà, qu'il y a des mauvais côtés dans la loi parfois, et on voit bien que c'est un phénomène très courant de l'athéisme, notamment de mettre la loi au sommet de tout. Et quand on est chrétien, on a une facilité particulière à dire mais ce qui est bon, c'est pas cette loi-là, c'est de faire ça, c'est d'être aimant, de communiquer dans l'entreprise, parce qu'après on peut toujours quand on est depuis longtemps dans un pays ou une entreprise, on connaît bien la règle, et puis on peut toujours tricher un peu pour être en conformité avec la règle, mais finalement on n'est pas très satisfait au fond de nous-mêmes, parce qu'on sait que ce qui mène au bonheur, c'est pas ça. Voilà, donc le Seigneur nous invite à enlever les mauvais vêtements qu'on avait pour ensuite pouvoir revêtir la grâce. Parce que quand on est mal fagoté, on est tout sale, on peut pas mettre en plus un habit de grâce par-dessus nos habits tout plein de mouches qui tournent autour, quoi. Et donc, il y a deux exemples, trois exemples dans la Bible. Il y a Adam et Ève qui retirent leurs feuilles de figuier. Il y a, dans le prophète Zacharie, le grand prêtre Josué, les anges le regardent et Dieu dit, lui, je vais le sauver. C'est un tison que j'arrache du feu. Enlevez-lui ses habits sales et mettez-lui des habits de noces. Troisième exemple, c'est les invités à la noce. Il y a une parabole où Jésus, il dit, il y en a plein, ils ne veulent pas venir, et allez inviter tous ceux qui traînent, et puis il y en a un qui arrive tout mal fagoté, etc. Et on imagine que lui, il est comme ça, mais alors si on ne parle que de lui, ça veut dire que tous les autres, ils ont pensé à enlever leurs vieux habits qui sentent mauvais, et à mettre un habit, donc que cet habit-là était gratuit, en fait. C'est ça qui est sous-entendu. Que le Seigneur, c'est pas un mauvais bougre qui dit venez à la noce et puis je vais tous vous mettre dehors parce que vous sentirez mauvais. Il leur dit vous avez des douches là, vous avez l'habit de grâce, vous avez juste à me confier votre petitesse, à vous reconnaître pécheur devant moi, à faire comme le publicain qui dit Seigneur pardon, et pas comme le pharisien qui dit c'est l'autre qui est nul et moi je garde mes habits sales. Voilà. Donc enlever ses habits. Ça, c'est quelque chose de très important, et le prophète le fait, c'est-à-dire que il est recouvert d'un habit qui signifie sa mission. C'est l'habit en poil de chameau. Lors de sa rencontre avec Isaac, donc là je remonte dans la Genèse, Rebecca descend de son chameau. Ça, c'est quelque chose d'un peu extraordinaire, parce que on a dit le chameau, ça représente la force. Et donc ça veut dire que si je descends de mon chameau, donc la femme, elle descend de... Elle abandonne son orgueil, en fait, quand elle rencontre son futur mari, elle s'humilie. Voilà. Et on retrouve le précepte pour une femme de se soumettre à son mari, c'est-à-dire que quand la femme, elle va dire, bon, allez, pendant un moment, je fais comme si c'est lui qui avait raison, quoi. Voilà. Alors qu'elle sait très bien qu'il est en train de dire un truc qui est pas vrai ou je sais pas quoi. Pendant un moment, elle descend de son chameau, elle enlève finalement cet habit qui représente la force, et puis elle laisse déblatérer son mari, par exemple, et c'est là qu'il y a une rencontre possible, en fait, parce que le mari, il va y avoir une fécondité dans le couple humain, ou dans le rapport homme-femme, quand la femme, à un moment, elle va dire, tiens, là, je vais mettre mon orgueil de côté, en fait, voilà. C'est une manière, je pense, pour une femme d'être prophète, quand une femme expérimente dans certaines situations. Alors là, je dis pas il faut une société où il y a une soumission, etc. Je dis que ce que dit la Bible, c'est que comme la femme a une compréhension plus fine d'un certain nombre de choses, et il suffit de le voir quand on a un petit garçon ou une petite fille, moi j'ai des enfants des deux sexes, et en fait les petits mecs ils sont capables de foncer dans le mur, de faire des trucs sans réfléchir, la fille elle pige beaucoup de choses parce qu'elle réfléchit avant d'agir, elle est un peu en retrait, et elle a une analyse plus fine de la situation, en fait. Donc c'est finalement le Seigneur pour compenser un petit peu cette avance qu'il a donnée à la femme, il dit tiens, essaye de descendre de ton chameau, fais comme si tu acquiesçais à ce que ton mari te dit ou l'homme qui est en face de toi, et tu vas voir qu'il va, c'est lui qui va faire du chemin, quoi. Voilà, plutôt que ce soit toi qui l'écrase avec tes certitudes. Il y a une complémentarité particulière, et un élément de la complémentarité qui est dur à interpréter dans la Bible, décrite par saint Paul, c'est cette soumission. Voilà, et les féministes crient en lisant ça, mais justement, il y a un sens spirituel qui est très fort et qui est lié au, comment dire, à la capacité des femmes d'être prophètes. Voilà, c'est un des éléments qui les rendent, qui ont une fécondité particulière. Alors le chameau, maintenant j'arrive vraiment sur le chameau, on va faire une étude sur le chameau. C'est l'animal qui est capable de parcourir des lieux arides, et pourtant, dans la Bible, on interdit d'en manger. C'est-à-dire que dans le Lévitique, chapitre 11, on dit le chameau c'est un animal qui est impur. C'est-à-dire qu'on peut monter dessus, mais il ne faut pas en manger. Le chameau, symboliquement, on le reçoit, le Seigneur nous donne de la force, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut s'approprier, quoi. C'est comme un manteau qu'il nous donne à un moment. Voilà, ça représente un charisme. Voilà. Par exemple, moi, j'ai la capacité de guérir des gens. Eh ben, ce charisme ne m'appartient pas. C'est un chameau, une monture que le Seigneur me donne pour parcourir des lieux arides, c'est-à-dire pouvoir naviguer dans, pour pouvoir rentrer en contact de gens un peu incrédules et les guérir et qu'ils soient touchés. Voilà. Et ben ce chameau-là, ben je monte dessus, puis après, une fois que je me suis servi de ce don de guérison qui m'est donné comme charisme, comme manteau prophétique, et ben je descends de mon chameau. Voilà, il n'est pas à moi, je le garde là, je l'attache à l'entrée du bâtiment, et ça permet vraiment qu'il n'y ait pas de l'orgueil qui naisse du fait d'avoir eu ce charisme-là, du fait d'avoir eu ce manteau de poils. Alors le chameau. Alors je vais vous lire un petit peu ce que j'ai compilé sur le chameau. Et puis ensuite, on va y revenir. Le chameau est le plus précieux des animaux domestiques de l'Orient. Son organisation spéciale lui permet de traverser de vastes solitudes de l'Asie et de l'Afrique. Il est le vaisseau du désert. Dans son estomac qui est double, il peut emmagasiner une importante provision d'eau, 120 litres environ. Il la loge dans ses nombreuses alvéoles qui garnissent le premier compartiment. Sa bosse renferme une réserve de graisse. Il peut par suite demeurer 10 jours sans manger et sans boire. Il est du reste très sobre, il se contente de brouter les buissons épineux en cheminant, grâce à son cou allongé, et les sucs que ces buissons renferment lui suffisent comme boisson. Son pied large et souple est fait pour les sables du désert. Il s'accommode cependant d'un sol raboteux et inégal, il avance alors avec précaution mais d'un pas très sûr. Le terrain humide et boueux est le seul obstacle infranchissable pour lui. Le chameau est avant tout une bête de somme. On l'a de tout temps utilisé en Orient pour les transports. Il supporte d'énormes fardeaux, sa charge moyenne varie entre 300 et 400 kg. Elle atteint une demi-tonne pour les sujets robustes. Avec ce poids, il fait entre 30 et 45 km par jour à l'allure de 4 km par heure. C'est à peu près l'allure d'un piéton. Sur sa bosse, on a juste une selle sur laquelle on suspend de grands paniers ou de vastes poches où l'on entasse les marchandises et parfois les femmes et les enfants. Le plus souvent, on installe ces derniers dans une sorte de palanquin. Les hommes s'établissent plutôt à califourchon sur la selle même. Au repos, le chameau se couche en ployant successivement les genoux de devant et de derrière. Pour se relever, il fait le mouvement inverse. C'est dans la position agenouillée qu'on monte ou qu'on charge le chameau. À sa naissance, on habitue le chameau à fléchir le genou pendant 20 jours environ. Une longe en serrant étroitement ses naseaux sert à le conduire, mais en réalité, on l'abandonne à son instinct ou à son caprice. Cette longe est décorée d'ornements variés, coquillages, croissants, découpés dans des lames d'argent et fixés sur des draps aux vives couleurs. Il est couvert d'une simple peau, et à la fin du printemps, tout le poil lui tombe en moins de 3 jours, et la peau lui demeure toute nue. Alors, les mouches l'incommodent extrêmement, et il n'y a point de remède que de lui goudronner le corps. Moi, j'aime bien parce que c'est très... Voilà. Comme monture et pour les parcours rapides, on emploie plutôt le dromadaire, race plus haute, plus élancée, et de robe plus claire. Il est plus délicat, plus sensible au froid, ne supporte qu'une charge réduite, mais il peut soutenir pendant 18 heures une allure de 10 à 12 km à l'heure. C'est la monture ordinaire des gens de qualité. Voilà. Donc... Voilà tout ce que j'ai trouvé sur le chameau. J'ai fait des recherches. Alors, si on revient un petit peu, on parle des vastes... Il arrive à parcourir les vastes solitudes du désert. On peut penser à Élie qui marche 40 jours et 40 nuits fortifié par le Seigneur. Voilà. Le Seigneur nous donne un chameau, c'est-à-dire que le Seigneur va nous donner des grâces, va nous donner... Alors, un chameau ou un vêtement en poil de chameau va nous donner un charisme particulier, quelque chose qui va nous faire tenir d'une étape à l'autre. Voilà. Alors, ça peut être aussi les sacrements. Entre deux messes, notre cœur complètement aride garde les espèces eucharistiques. Et c'est comme une, j'entendais quelqu'un qui disait, l'Eucharistie, c'est comme une boîte où vous avez un parfum d'agréable odeur, et on remplit cette boîte à chaque messe, et puis entre deux messes, pour pouvoir bénéficier à nouveau des effets de l'Eucharistie, on ouvre un peu le couvercle, et puis on sent, et... C'est-à-dire qu'on on dit, Seigneur, tu es encore en moi, Seigneur, tu me transformes encore, quoi. Seigneur, tu m'as donné 120 litres lors de la dernière oasis, et ben je vais boire 3 litres maintenant, quoi. Voilà, c'est ça. Pour profiter des effets de l'Eucharistie, parce que on n'y pense pas toujours, et pour la confession, c'est pareil. Moi, c'est quelque chose que je fais là en ce moment, parce que on a changé un peu notre rythme familial, et j'ai du mal à me confesser aussi régulièrement qu'avant, parce que au niveau timing, on est tout le temps perturbé. Et donc, je me rappelle, je me dis, tiens... La dernière fois, il m'avait dit, vous ferez 3 Notre Père en contrition. Et du coup, je me dis, bah, comme je vais pas réussir à me confesser avec tout à fait la même fréquence, je me confesserai un tout petit peu moins pour l'instant, le temps que je trouve un prêtre à des dates régulières, eh bien, je vais redire les 3 Notre Père en disant, Seigneur, merci parce que tu vas me faire bénéficier à nouveau des grâces du sacrement de pardon, voyez. Le sacrement de pardon, c'est pas je te trempe dans l'eau, puis après tu vas te salir, tu vas te salir, tu vas te salir, c'est pas que ça, en fait. Dieu est hors du temps, et si on vient vers lui comme un enfant qui dit, Père, pardonne-moi, eh ben en réalité, il va se déployer dans le temps, voilà. C'est pas que le moment où le prêtre nous donne le pardon, c'est aussi à chaque fois qu'on rend grâce, et que, comme le lépreux, on retourne dire merci à Jésus, voilà. Et là, le Seigneur continue à déployer son pardon dans le temps. Et ça, c'est quelque chose, c'est les 120 litres qui sont dans le gosier du chameau, quoi. Alors, on a dit, il se contente de buissons épineux. Donc ça, c'est la capacité, finalement, de cet animal un peu étrange, d'arriver à se nourrir avec n'importe quoi, surtout des trucs qui nourrissent pas les autres, voilà. Et on va en parler après, le fait que le prophète mange des sauterelles, qui est un aliment que très peu mangent. C'est un signe que même dans des lieux arides, même dans des endroits où où il n'y a pas de quoi se réjouir, où il n'y a pas de quoi être heureux, où il n'y a pas de quoi avoir assez d'argent, où il n'y a pas de quoi, bah, le Seigneur va donner au prophète des choses particulières qui vont régler tous ses problèmes, quoi. Voilà, c'est ça, le buisson épineux, parce que là, il arrive à digérer les sucs du buisson épineux et ça l'hydrate un petit peu, quoi. Voilà, ça fait pas 120 litres, mais ça voilà, c'est typique du prophète. Alors, il avance avec précaution, mais d'un pas très sûr. Ça, c'est le prophète qui est à la fois prudent et ferme. Voilà, le prophète, avant d'avancer quelque chose, ben, il y a un certain nombre de choses, il y fait attention. On avait parlé de Moïse qui demande à Pharaon, mais tu veux nous laisser partir ou tu veux que je chasse les grenouilles? À quel moment il va un petit peu interroger ses interlocuteurs qui ont l'air de s'être convertis, et puis là le pharaon lui dit, bah demain tu chasseras les grenouilles. Donc Moïse il dit, bah oui d'accord, en fait tu voulais pas vraiment que je chasse les grenouilles, parce que sinon tu m'aurais dit tout de suite. Voilà, le prophète c'est ça, le prophète il va avancer avec un pas prudent et en même temps très sûr, parce que il dit, Seigneur, de toute façon tu vas m'aider à avancer, quoi. Voilà, et il y a quelque chose qui, moi je trouve, que qui est rassurant, en fait, c'est que quand on contemple Saint-Pierre qui coupe l'oreille du soldat. Lui, c'est un zèle prophétique un peu, hein. Je défends Jésus. C'est Jésus, il dit, ceux-là, laissez-les partir. Et c'est après que Pierre, il coupe l'oreille. Donc, il est pas parti tout de suite. Il s'est pas carapaté tout de suite. Jésus vient corriger l'erreur que Saint-Pierre a fait dans son zèle prophétique, en fait. Et c'est pour ça que ça peut être quelque chose qui aide à dire, mais Seigneur, je sais pas si c'est toi qui m'as parlé, mais allez, je fais un acte de foi. Je vais croire que c'est toi. Et je vais avancer d'un pas sûr comme le chameau dans le désert. Et si je fais des bêtises, eh ben, viens faire comme toi, Jésus, quand t'as réparé l'oreille du soldat, quoi. Pierre, il croyait bon de te défendre, et ben viens toucher l'oreille de celui que j'ai blessé en m'énervant, ou en étant maladroit dans mes paroles, ou en étant imprécis dans ce que j'ai dit, ou en faisant quelque chose qui n'était pas forcément au bon moment, au bon endroit, ou devant les bonnes personnes. Voilà. Finalement, le zèle prophétique, il y a une partie de la foi qui tient au fait que on se dise, Seigneur, je te demande maintenant de réparer si je fais des bêtises, parce que je vais avancer vers toi d'un pas sûr comme le chameau avec ses grosses pattes là, et qui arrive à marcher à l'allure d'un piéton alors qu'il est dans les sables ou dans les rocailles ou dans les situations impossibles, quoi.